Alors, les réclamations, effectivement, ça fait 30 ans que je travaille, je nage dedans, et que, effectivement, toute mon approche de ce traitement des réclamations, je l'ai acquise en observant les Américains. J'ai observé les Américains du Nord, bien sûr, dans leur pratique, il y a une trentaine d'années, comment ils traitaient le client, comment ils se comportaient vis-à-vis du client pour obtenir de sa part ce fameux waouh que tout le monde évoque en riant en France, on se moque, mais qui est quand même sérieux parce que quand on est très content, on fait waouh. Ça fait partie de notre manière d'être humain. Donc voilà, je me suis plongée là-dedans il y a déjà longtemps et maintenant, depuis, enfin, dans la relation client et la satisfaction client, et depuis une quinzaine d'années, je travaille essentiellement sur les réclamations. Je convainc de l'intérêt de former les collaborateurs à une approche du client beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus amicale, beaucoup plus sympathique et empathique et qui crée la confiance. Simplement, la formation elle-même, elle ne dure pas plus de 1 ou 2 jours et que 2 jours pour changer une mentalité, c'est extrêmement court. Alors effectivement, quand on a fait 2 jours, il y a les entreprises qui ont très bien compris sérieusement qu'on ne peut pas rester sur 2 jours parce que il faut. C'est comme n'importe. Je compare souvent avec le sport, hein, mais je veux dire, il est simple mon parallèle. C'est que dans le sport, si vous voulez être un bon joueur de golf ou un bon joueur de tennis, vous n'allez pas aller sur un terrain pour jouer. Vous allez commencer par apprendre et vous allez vous entraîner. L'entraînement est fondamental dans tous les sports. Pourquoi il ne le serait pas dans un domaine comme le nôtre? C'est-à-dire la relation. Pourquoi on ne s'entraînerait pas à une bonne relation et à une relation orientée client? Donc en fait, c'est ça ma crainte, c'est que je fais des formations d'un jour ou deux, des gens passionnés de ce qu'ils ont appris et qui ont envie de le faire. Ça, c'est clair, ils ont envie de le faire en sortant. Ils sortent avec, d'une part, des bases pour un meilleur comportement et d'autre part, avec une méthode pour pratiquer, qui leur donne donc la possibilité d'acquérir ces fameux réflexes dont je parle, mais ils n'ont pas la possibilité de s'entraîner. Et si je peux rajouter quelque chose, je dirais que souvent, ils ne sont pas aidés à mettre en pratique ce qu'ils ont appris parce que les éventuels managers qu'ils ont autour, enfin les managers qui les dirigent, n'ont pas forcément fait la formation et ne savent pas ce qu'on leur demande de faire. Et donc, ils vont mettre des freins parce qu'ils ne comprennent pas exactement pourquoi ils adoptent un comportement qu'ils n'avaient pas l'habitude d'adopter avant. On se retrouve donc dans une situation difficile pour mettre en œuvre. Et je dis qu'il faudrait arriver à des pratiques, à de l'entraînement comme on fait pour n'importe quelle discipline qu'on apprend. Et j'ai un exemple à donner à ce propos. Alors, c'est pas un de mes clients. C'est pas un de mes clients. C'est un exemple flagrant pour moi. C'est le service client d'American Express. Je suis cliente d'American Express depuis de longues années. Ça fait très longtemps, comme tout client, j'ai eu des moments où j'ai eu besoin d'eux, où j'ai dû leur parler. Ces derniers temps, particulièrement, parce que vous le savez, dans les établissements financiers, ils sont devenus très regardants pour lutter contre la fraude, donc ils vous demandent des preuves, et c'est un peu irritant pour un individu de se voir demander des comptes sur ce qui lui appartient, ses comptes bancaires. Mais si vous voulez, voyez, ces situations-là, je les ai vécues avec des banques, et j'ai toujours été un peu en conflit avec la banque quand je disais que j'étais pas d'accord. Avec American Express, tout se passe comme sur du velours. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi je l'analyse? Parce que mon problème est leur problème. C'est-à-dire, la manière dont je leur communique mon problème, ils entrent, enfin, ce qu'on appelle l'empathie, hein, je ne fais rien d'autre que de dire qu'ils font de l'empathie, mais ils la font. C'est-à-dire qu'ils sont capables de me dire que mon problème est complètement clair pour eux et compréhensible pour eux. Alors pourquoi je prends l'exemple d'American Express? Parce qu'American Express est géré, la relation client est gérée par des Français en France, et que souvent on me dit que les Français sont pas faits pour le service. On me dit que les Américains sont peut-être plus proches de faire ce genre de choses. Je précise, les collaborateurs d'American Express sont Français, travaillent en France. Et pourquoi ils sont performants? Et performants, quel que soit celui que vous avez en face de vous. Ben, ils sont performants parce qu'ils font cet entraînement dont je parle. C'est-à-dire que chez eux, c'est la formation, oh, je ne sais pas comment le décrire, c'est un sacerdoce. Il faut continuer à travailler, à s'entraîner comme on s'entraîne pour devenir un bon golfeur, un bon tennisman. Voilà. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette notion d'entraînement et cette notion de travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je souhaiterais que plus de personnes, plus de responsables comprennent qu'on ne peut pas attendre que les gens changent si on ne leur donne pas les moyens de s'entraîner à changer.
Ouais, tu m'as dit en fait que c'était un entraînement quotidien, il fallait que les managers participent. Et c'est vrai qu'on en discutait il n'y a pas très longtemps, lors de l'inauguration du lancement de son livre sur la culture client, Daniel Rey a présenté le cas client de Malakoff Humanis avec le responsable de ressources humaines, hein, Frédéric, disait qu'au lieu de faire une formation classique d'une journée, ils étaient partis en plus sur un entraînement. Je crois que c'était tous les jours ou tous les deux jours, les 5 minutes de la relation client sur plusieurs semaines pour justement transformer un geste en un réflexe.
Oui.
Et c'est ça qui est compliqué, comme tu l'as dit, c'est que les managers relaient et continuent en fait de travailler là-dessus. C'est ce que fait aussi Geodis avec Vianney Leveux qui nous disait que lorsqu'ils avaient formé les personnes à la culture client, il y avait des indicateurs, un certain nombre de choses. Et après, il y avait des contrôles réguliers auprès du management. Ça, c'est essentiel. Tu me l'as dit aussi.
Oui.
C'est important que les gens existent au travers de la relation avec le client et qu'ils s'approprient cette empathie-là.
Pour être orienté client, il faut qu'ils s'entraînent à appliquer ce qu'ils ont appris. Maintenant, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en France, on a une grosse caractéristique, si je ne veux pas dire un gros travers, c'est qu'on considère qu'on est plus important que le client. C'est-à-dire que le collaborateur que j'ai en face de moi pour le former, la phrase que j'entends le plus souvent, c'est « Oui, mais vous me demandez de me mettre à la disposition du client, alors que lui, il ne s'intéresse pas à moi. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois m'intéresser à lui ?» Mais ça a l'air bête comme question, parce que quand on réfléchit qu'on n'a pas le même rôle quand on est client ou qu'on est collaborateur, mais pour eux, c'est compliqué de comprendre que le client puisse avoir le droit de leur envoyer des choses, de leur dire des choses désagréables.
Des piques, quoi, de ne pas être sympathique, de ne pas être gentil.
De ne pas être gentil. Le client a le droit de ne pas être gentil et le collaborateur a le devoir de l'être gentil. Alors, c'est vrai que c'est un gros travers à surmonter en France. Parce que tout le monde le sait, on a une nature de gens indépendants qui n'aiment pas la servilité et qui, quand on leur parle comme ça, on le sent.
Ah oui, c'est lié de l'époque royale où justement la servilité, c'est la révolution qui a arrêté ça. On n'est plus au service des gens, on n'est plus des serfs.
Oui, exactement. Donc en fait, c'est vrai que cette notion de servilité a été très forte et reste très forte dans la culture française. Et ils ont l'impression, les collaborateurs que je forme ont l'impression que si ils se plient aux humeurs du client, ils deviennent serviles. Donc en fait, le gros travail est de leur faire comprendre le rôle respectif des deux personnes. D'un côté, on a un client. Le client, il a des humeurs. Et on est tous des clients et on a tous des humeurs. Quand on a une humeur, on n'est pas forcément gentil au moment où on l'exprime. Hein, on est en train de vivre un moment très désagréable, on n'a pas envie de prendre de gants.
On l'a attendu au téléphone, le service il marche pas, on a appelé 3 fois.
Oui, voilà.
C'est votre faute un peu, c'est là.
Voilà. C'est votre faute, c'est votre boulot et vous faites pas ce qu'il faut. Donc en fait, quelque part, le client, il se sent en droit d'être de mauvaise humeur. Et moi, je dirais, il est en droit d'être de mauvaise humeur. Mais le collaborateur en face a envie de lui dire, mais monsieur, madame, parlez-moi correctement. Ne vous énervez pas comme ça. On va trouver une solution. Mais si on regarde bien ce que ressent le client à cet instant, il faut qu'il sorte l'humeur qu'il a. Et moi, si vous voulez, ce que je leur fais comprendre, c'est que on n'a pas un rôle respectif. On n'est pas dans un rôle symétrique dans une relation avec un client. On a un enjeu, nous, qui est de garder le client, qui est de le rendre fidèle, c'est de lui vendre plus éventuellement. Et le client, lui, il a juste un problème à résoudre et il a le sentiment d'être mal écouté, mal compris et ça le met en colère. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout les mêmes. Il faut donc arriver à comprendre que quand je suis dans mon rôle de relation client avec un client, je ne suis pas monsieur lambda. Je ne suis pas moi dans ma vie. Je ne suis pas celui à qui on donnerait des ordres et qui n'a pas à les recevoir. Je suis celui qui est là pour servir, pour rendre service, pour apporter des réponses aux clients. Et ça n'a rien de servile. Ça n'est pas servile que de répondre à un client. Réfléchissons ensemble à un client. Le client, souvent, aujourd'hui, il dit « Ah oui, mais moi, j'ai payé, hein, je paye. » Et ça exaspère les collaborateurs que le client leur dise « J'ai payé. » Mais il n'y a pas à être exaspéré. Le client a payé pour un service, donc il est normal qu'il l'ait. Donc, si ce service, il a le sentiment de ne pas l'avoir et qu'en plus, ça lui apporte beaucoup de gêne, hein, parce que quelquefois, la gêne est importante. Hein, quand il hurle, quelquefois, c'est parce qu'effectivement, il avait un enjeu important pour lui et puis il ne peut pas le satisfaire. Donc, quand il est ce service qu'il a payé, il est en droit de l'avoir,
le réclamer, ouais.
De le réclamer. Donc voilà, moi j'essaie de leur faire comprendre qu'ils ne perdent rien de leur valeur de personne, mais qu'ils jouent un rôle différent. Et je dirais que globalement, j'essaie de leur faire comprendre. J'essaie vraiment de les amener à comprendre ce qu'ils ont à gagner, à transformer un client mécontent en client satisfait. Parce qu'un client qui hurle en entrant dans la conversation et qui vous remercie à la fin de l'entretien, c'est un vrai bonheur. Ça veut dire que vous n'avez pas été maltraité. Vous avez fait ce qu'il fallait pour que le client comprenne qu'on résout son problème. Donc en fait, vous avez fait le travail. Et c'est ça qui est difficile à faire comprendre souvent. Parce qu'on le prend peut-être un peu trop au premier degré. Enfin, c'est l'impression que j'ai souvent. Et c'est quand même quelque chose qui reste très, très, très dur à surmonter dans les formations que je fais. Alors, c'est vrai que si en rentrant dans le service, on vous dit, comme je l'entends très souvent, « Ah ben, vous n'avez pas à laisser le client vous parler comme ça. » Alors là, effectivement, tout ce qu'on aura pu apprendre en formation n'aura plus aucun effet.
Bah justement, les petits panneaux qu'on voit dans de plus en plus de grandes surfaces, etc., qui dit en grande ligne, soyez poli, on vous répondra mieux. Qu'est-ce que tu en penses, Michel?
Ah ben ça, c'est un vrai sujet sur lequel je suis très très réactive. C'est que si vous voulez, pour moi, on est en France, nous sommes en particulier en France, nous sommes très marqués par notre éducation scolaire. C'est-à-dire que on nous donne des ordres. Alors là, tu parles des petits panneaux dans les magasins. Moi, je vois des petits panneaux dans les toilettes. Je vois des petits panneaux sur les murs. Tous, ils sont autoritaires. Ils donnent un ordre. Ils vous disent faites pas ci, laissez l'endroit comme propre autant que vous l'avez trouvé en entrant. Enfin, tous ces panneaux, c'est des ordres qu'on donne au client. On lui donne des ordres. Et le client, il a horreur des ordres. Il a horreur de se sentir culpabilisé par quelque chose que quelqu'un d'autre décide pour lui que c'est important. Donc, les petits panneaux qui diraient « souriez en entrant dans le magasin », qui diraient « pensez à… » Je ne sais plus ce qu'il y avait sur les panneaux dont nous parlons. C'est que des ordres. Et moi, dans les formations que je fais, vous savez, il y a un temps de la langue française que je bannis radicalement, c'est l'impératif. L'impératif… Enfin, si vous voulez, l'impératif, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un ordre. Selon la personne que vous avez en face de vous, vous allez avoir plus ou moins des genres rebelles. Mais le rebelle, c'est-à-dire celui qui, dans son enfance, s'est rebellé et est devenu un adulte qui se rebelle, eh ben, il va se rebeller et il va dire « non, je le ferai pas ». Voilà, c'est à peu près ça qu'on obtient. Donc voilà, si vous voulez, l'importance qu'il y a à être attentif, à ne pas culpabiliser l'autre, en fait. On ne culpabilise pas le client. C'est, à mon avis, profondément une erreur.
Alors, justement, comment on fait pour traiter ces clients furieux? Quelles sont tes méthodes et tes mécanismes quand tu as un client qui est furieux en face de toi ou au téléphone? Comment tu fais pour l'aider à faire justement redescendre la pression?
Eh bien, il y a juste une règle de base très simple. C'est j'entre dans son univers. C'est-à-dire... Je vais prendre un exemple et après je le développerai. Il y a quelques années, je formais des gens, je formais des conseillers. Là, c'était sur un plateau téléphonique. Et il y avait des gens qui travaillaient dans les transports qui sont pas toujours très simples, surtout en ville. Et donc, en fait, il y a un client qui arrive dans la communication. On écoutait des entretiens avec des collègues. Et on faisait du coaching, c'est-à-dire je les aidais à trouver les bonnes solutions pour améliorer la relation. Et il y a à un moment donné un client qui entre, mais furieux, grossier, il insulte la jeune femme qui lui répond, avec des mots grossiers, très désagréable à entendre. Alors les deux collègues qui écoutaient l'entretien, moi j'arrête l'entretien, les deux collègues qui écoutaient l'entretien disent « J'espère que tu as raccroché, j'espère que tu me raccroches au nez. » Et on reprend, je remets l'entretien et on entend quelque chose de hyper simple. On entend la jeune fille qui était en train de se faire insulter, hein, qui lui dit « Écoutez monsieur, avec un petit ton comme celui que je prends un peu, hein, très neutre, très bienveillant, pas du tout agressif. Écoutez monsieur, j'entends que vous êtes très en colère. Excusez-moi, j'ai pas compris la raison. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe ?» Le client a eu un moment de silence. Puis il a dit, écoutez, mademoiselle, excusez-moi, j'ai été grossier, c'était insupportable. Mais ça fait 2 heures que je suis planté dans tel endroit et que je ne sais pas combien de temps je vais attendre pour avoir un moyen de transport. Et donc, en fait, c'est pas tous les jours que les clients font ça. Il y a des clients qui continueront à râler. Mais si vous voulez, dans ce cas-là, vous voyez, c'est quand vous me demandez quoi faire face à un client furieux. Le client furieux, il faut entrer dans sa colère. Il faut lui dire, mais votre colère, elle est légitime. Si je sais pourquoi il est en colère, je vais lui dire, mais monsieur, vous avez raison. Vous voyez, c'est faire le contraire de ce qu'on a l'habitude de faire. Au lieu de dire, mais non, mais c'est pas possible, non, nos services sont...
Vous êtes le premier client à me dire ça, personne ne l'a dit auparavant. Ah, c'est bizarre, on n'a pas ce problème d'habitude.
Absolument, c'est des phrases comme ça qui sont à bannir totalement. Mais dire au client, mais vous avez raison, c'est insupportable ce que vous vivez. Quand vous avez dit à un client, c'est insupportable ce que vous vivez, il ne peut pas vous en rajouter beaucoup au-dessus. Hein. Vous avez été dans son univers, vous l'avez compris. Alors on peut même en faire plus. Vous voyez, à partir du moment où on a fait ça, ben le client il va obligatoirement redescendre dans sa colère et on va pouvoir dialoguer. Donc, ce que je viens de vous décrire, ça s'appelle tout bêtement de l'empathie. Mais si vous voulez, la difficulté, c'est que l'empathie, on met le mot empathie sur plein de situations, plein de comportements qui ne sont pas de l'empathie. L'empathie, c'est pas dire je comprends. Si on ne dit pas ce qu'on comprend. L'empathie, c'est pas de le dire avec un ton qui montre qu'on s'en moque. Donc, l'empathie, c'est être dans le vécu du client et le vivre et lui montrer qu'on le partage avec lui. Et là, il vous croit. Donc, en fait, tout, c'est de la confiance qu'il faut donner au client.
Alors, montre-moi un petit peu une fausse empathie et une bonne empathie, justement, parce que ça a l'air d'être assez subtil.
C'est subtil parce que ça repose. Si vous voulez, prenons le terme, la situation que je viens d'évoquer. Non, c'est pas de l'empathie. Donc je dis quand même j'aurais atteint l'effet contraire si la jeune fille était rentrée dans l'entretien en disant oui monsieur qu'est-ce qui se passe que vous me parliez comme ça, hein, ou j'aurais pu lui dire ouais je vois que vous êtes en colère avec un ton comme ça. Donc là j'aurais raté mon coup. Si je lui dis je vois que vous êtes en colère en le critiquant, en l'agressant, il va pas s'adoucir, il se sentir critiqué. Donc en fait, la fausse empathie, c'est celle qui prend les mots de l'empathie. Si vous voulez, moi je vis beaucoup ça, des fausses empathies. Des phrases « je comprends ». D'ailleurs, si vous voulez, il y a une phrase typique de client derrière une phrase comme celle-là. Quand un collaborateur dit à un client « je comprends », derrière il dit « mais ». « Je comprends, mais », en gros, « je comprends, mais je vais vous expliquer pourquoi vous avez tort ». C'est ça la fausse empathie. C'est-à-dire qu'on n'entre pas vraiment dans le vécu du client. On lui dit qu'on comprend. D'ailleurs, il y a beaucoup de clients, j'en ai entendu pas mal, qui disent « Oh non, on ne comprenait rien du tout ». C'est-à-dire, ça, ils n'y croient pas. Si vous voulez, l'empathie, c'est montrer à un client que ce qu'il est en train de vivre, on le partage et qu'on soit crédible dans la manière de le partager. Donc, la fausse empathie, c'est dire « je comprends ». La vraie empathie, c'est dire « oui, je comprends vraiment la situation dans laquelle vous êtes parce que ça a entraîné pour vous telle et telle chose ».
Ouais, donc on distingue, on va dans le sujet et on montre qu'on a compris.
Qu'on a compris les conséquences pour lui. C'est-à-dire, si vous voulez, le client, il arrive pas pour être compris, il arrive pour avoir une solution. Donc si on lui montre pas qu'on a compris le problème qui est le sien, comment il va croire à la solution qu'on va lui apporter? Si on lui dit pas, je sais pas, là je prends un exemple d'assurance ou d'assistance, le client, il arrive dans la communication en disant « C'est odieux, j'en peux plus, je suis sur l'autoroute, je vais pas tarder à me faire accrocher par une voiture, je suis désespéré. » Et qu'on lui répond « Calmez-vous monsieur, je vais m'occuper de vous. » Ça va, c'est gentil, mais ça suffit pas. Il faut lui dire « Mais monsieur, je comprends parfaitement votre désespoir dans une telle situation et croyez-moi, je la comprends tellement bien que je vais faire nécessaire tout de suite. Donnez-moi, après on rentre dans la pratique, dans les détails pratiques. » Mais le tout, c'est de mettre sa compréhension, qui est l'empathie, au niveau du degré de l'émotion. Vous avez des émotions à différents degrés. Vous avez l'émotion forte, qui mérite une empathie forte, hein, le cas du client désespéré sur le bord de l'autoroute, ça ne se traite pas en lui disant « je comprends votre situation ». Ça se traite en disant « je me mets à votre place, si j'ai... c'est vraiment, et je comprends que vous soyez désespéré, surtout avec vos enfants, que, pour qui vous craignez. Alors, je vais faire le maximum et le plus vite possible, donnez-moi des détails que je puisse vous aider à trouver la meilleure solution ». Ça, c'est l'empathie quand il y a émotion. Mais vous avez le client qui n'a pas d'émotion. Donc, le client qui n'a pas d'émotion, qui ne va pas vous dire «
je suis furieux »,
il va vous dire « voilà ce qui se passe », etc. Ben, votre empathie, elle va être beaucoup plus technique. C'est-à-dire que vous allez là lui parler de situation, mais ce qui fera la différence et la confiance qu'il aura en vous, c'est votre ton. C'est-à-dire, c'est le ton qui sera adapté à la situation. Hein, c'est vrai que la situation que vous avez, éventuellement, je ne lui dirais pas « je comprends votre émotion ». S'il n'en a pas, un client ne peut pas lui parler de son émotion. S'il n'a pas d'émotion, il va être vexé en disant « comment ça, une émotion ?» Pas d'émotion, moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Donc, un client qui n'a pas d'émotion est un client qui vit quand même une situation difficile. Donc, je vais lui dire « oui, la situation que vous me décrivez est problématique. Je vais faire le nécessaire pour vous aider. » Est-ce que vous pouvez me donner quelques détails que je puisse, si vous voulez, on reste avec un ton qui ne va pas être le ton empathique de tout à l'heure avec le désespoir, qui va être le ton rationnel de deux personnes qui parlent. Mais ce sera toujours parce que je comprends la situation qu'il vit. Et c'est-à-dire que je ne me contente pas de lui dire je comprends. C'est ça la question, si vous voulez. On a pris l'habitude dans les entreprises à dire je comprends à tout bout de champ. D'ailleurs, moi, je préconise de remplacer « je comprends », par exemple, à l'écrit, mais ça peut être fait à l'oral, je préconise le « j'imagine », qui remplace « je comprends ».
J'imagine bien,
ouais. Oui, j'imagine bien la situation dans laquelle vous êtes. Donc, en fait, si vous voulez, il y a énormément de déclinaisons. Et d'ailleurs, l'important, et c'est là que c'est difficile, hein, comme travail pour les collaborateurs qui gèrent les réclamations, c'est qu'il faut le faire à la carte pour chaque client. On ne peut pas faire, vous voyez, souvent on me dit « j'aimerais bien faire des courriers type ». Je leur dis « faites des courriers type pour les réponses techniques, si vous voulez ». Parce qu'en fait, faire un paragraphe de réponse à un problème technique, on n'a pas 50 000 problèmes techniques, c'est toujours un peu les mêmes dans les entreprises. Donc on peut faire un beau paragraphe de belles réponses claires, compréhensibles, faciles, facile à comprendre, parce que sans jargon et sans tous les discours de l'entreprise qui sont souvent incompréhensibles. Mais si vous voulez, ça c'est le côté technique. Mais vous ne pouvez pas vous dispenser de répondre à la personne qui est unique en face de vous. Vous ne pouvez pas avoir une phrase d'empathie générique. Elle n'aurait aucun sens. Après ce que je viens de vous dire sur l'empathie, ça n'aurait aucun sens. Vous voyez, vous êtes d'accord avec moi.
Alors justement, comment fait-on pour avoir cette empathie et gérer un client furieux par email? Parce que là, on a parlé du téléphone, où on peut mettre, tu l'as dit, l'importance du ton, de la voix. Comment tu le fais par email?
Alors par email, je m'appuie sur les mêmes bases. Hein. C'est-à-dire que pour moi, l'important dans l'email ou dans le courrier, hein, parce que je traite email, courrier, éventuellement avis sur les réseaux sociaux, enfin tout ce qui est écrit. Quoi. Quand on répond par écrit, on n'a pas la capacité de développer. Il faut donc trouver très simplement le vrai sujet. Donc pour moi, quand je forme les personnes à répondre aux clients, je travaille essentiellement sur le courrier envoyé par le client, c'est-à-dire ce que le client a écrit lui-même. Parce que ce qu'il a écrit, ça reflète ce qu'il est. Donc, s'il est émotionnel, s'il évoque des émotions, s'il dit « je suis furieux », s'il dit « je suis déçu », si tous ces mots où il ne les dit pas mais on les sent, tous ces mots doivent être repris dans la manière dont je vais faire de l'empathie, à l'écrit. Donc, si vous voulez, à l'écrit, moi, ce que je leur propose, c'est de faire... de structurer, hein, c'est-à-dire j'ai une structure qui commence par faire un accusé de réception qui dit bien ce que le client a demandé, sans enlever des parties.
J'ai bien compris que
voilà,
vous vouliez...
Je réponds à votre courrier, à votre message dans lequel vous exprimez votre mécontentement concernant telle chose ou telle autre chose, et vous nous réclamez un geste commercial. Enfin, je prends en compte tout ce qu'il a dit. Le but de l'écrit, Puisqu'on n'a pas la possibilité de dialoguer, le but de l'écrit, c'est qu'en un mot, en une phrase, on ait gagné sa confiance. Hein, c'est-à-dire qu'il n'ait pas envie de refermer son ordinateur. Donc, pour qu'il ne referme pas son ordinateur, il faut que quand je l'accuse de réception, il voit tout ce qu'il m'a demandé. Et il se dit oui, ils ont bien compris. Mmh. Et il va plus loin. On passe à l'étape suivante. L'étape suivante, je préconise toujours l'empathie. Étant donné, enfin l'empathie, quand je dis l'empathie, c'est ce que j'appelle la phrase d'empathie, mais qui reflète le mécontentement, hein, là-bas, comment il était. Donc, à la lecture de votre courrier, j'ai compris à quel point vous étiez en colère par rapport à la réponse qui vous a été faite et les conséquences que ça a pour vous dans votre quotidien. Et s'il est mécontent, s'il est en colère, je fais de l'empathie comme ça. Mais je reprends les choses qu'il m'a dites pour pouvoir lui montrer que ce que je lui dis, c'est ce qu'il a dit et que je l'ai écouté, que je l'ai compris. Cette étape-là, je considère que quand je l'ai bien réussi, je continue à garder sa confiance. Il va continuer à garder le courrier ouvert. Il va pas, vous savez, comme on fait quelquefois, on referme et on réécrit, hein, et on répond. Ben non, il n'est pas envie de répondre. Il se sent compris. Donc, il va aller plus loin. Alors après, ben, je vais passer à la réponse. Et c'est là qu'il faut être très attentif. Il faut que le ton. Alors, je vais parler du ton. À l'écrit, ça paraît bizarre de parler du ton. Mais vous allez voir que parler du ton à l'écrit, c'est pas du tout bizarre. Parce que, à l'écrit, tout à l'heure, je vous ai dit éviter les impératifs. Vous voyez? Eh ben, à l'oral, à l'écrit, éviter tous les mots qui donnent des ordres. Commencez pas par dire, je vais vous expliquer comment faire. Parce que là, vous lui donnez.
Voici la procédure.
Voilà, vous prenez la main et vous lui dites des choses qui, pour lui, ne sont pas la réponse à sa question. Hein, donc, en fait, si vous voulez, la réponse, elle doit être faite avec un ton bienveillant, avec des mots. Moi, j'ai fait toute une liste des mots à éviter et des expressions à mettre à la place, hein, pour avoir un ton bienveillant, un ton neutre, employer que des mots. J'ai supprimé les impératifs, mais supprimer les « je vous informe », supprimer les « comme vous le savez » ou les « à savoir » ou les… vous voyez, tous ces mots qui donnent le sentiment qu'on donne des ordres, qu'on est dans l'autoritaire. Le client, il faut le garder dans ce climat de confiance qu'on a créé. Donc, en fait, je vais lui dire, et je vais le faire, alors ça dépend. Si c'est un courrier dans lequel il me demande quelque chose à quoi il n'a pas droit, hein, parce que ça va être ce que j'appelle l'art de dire non. Hein, dans ce cas-là, je vais lui, dans le cas où il s'est trompé, il croit avoir droit à quelque chose, et c'est pas le cas. Donc je vais lui dire, bon, permettez-moi, vous voyez, toujours, alors là c'est un impératif, mais pardonnez-moi cet impératif, il est juste un peu plus doux que tous les autres. Permettez-moi de vous préciser la clause du contrat qui nous lie. J'ai un trait en lui disant s'il y a un contrat, si en général il y a des conditions de vente, il y a quelque chose qui régit les relations entre un client et un fournisseur. Donc permettez-moi de vous préciser la clause qui est en question. Donc elle précise ça, elle dit ça. J'essaie de ne pas le faire avec des mots lapidaires, j'essaie de le faire avec des mots plutôt neutres. Et donc je lui explique la règle qui s'applique. La règle qui s'applique déjà à cet instant. Il a compris que je vais lui dire non. Parce qu'en fait, quelque part, s'il n'est pas énervé, il entend, et il entend que la règle, c'est celle-là qu'il veut surmonter. Et après, je lui dis, voyez, dans votre cas, et je ramène la situation à son cas, dans votre cas, on était bien dans une telle situation, et je passe un peu, et je termine par dire, vous comprenez donc pourquoi je ne peux répondre positivement à votre demande. D'accord. Vous voyez, j'arrive par une méthode, par une démarche, qui à aucun moment n'est brutale. À aucun moment si vous voulez, c'est pour ça que la langue française est très importante à utiliser. On peut pas entrer directement dans passer de l'empathie à vous n'y avez pas droit. Parce que si vous voulez, il va dire, il s'est moqué de moi. Alors que le but de l'empathie, c'est pas de se moquer de lui, mais c'est de calmer son émotion. Hein, et qu'il soit capable d'entendre rationnellement quelque chose. Hein, parce que quand je lui rappelle la règle, je redeviens rationnel. Je l'amène à être rationnel. Mais s'il est en pleine colère, il ne sera pas rationnel.
Amusant, chaque mot a un sens. C'est vrai que moi, de plus en plus, j'écris, j'écris pas, par exemple, de rien, mais je dis c'est un plaisir. Oui. Ou alors, par exemple, désolé, Je dis plus désolé pour ce problème, je dis merci pour votre patience. J'essaye de positiver un petit peu les mots.
Oui, c'est bien. C'est, enfin, on peut quand même employer. Moi, je ne suis pas non plus une fervente des mots noirs, hein, parce qu'en fait, il y a des mots qu'on ne peut pas trop remplacer. Mais je suis plutôt pour éviter les mais. Hein, ça, c'est clair. Je comprends mais. Définitivement, on ne dit pas. Si vous dites à quelqu'un, je comprends la situation qui est la vôtre avec les conséquences que ça a pour vous, et vraiment, je suis à côté de vous, je suis avec vous. D'un autre côté, vous voyez, c'est pas oui, mais c'est d'un autre côté.
Et puis c'est une autre phrase en fait.
C'est une autre phrase, voilà. J'ai une phrase pour dire que je suis dans son sens, et ensuite, je passe de l'autre côté. Je dis, ça peut être en même temps, ça peut être d'un autre côté. Vous voyez, c'est tous les mots qu'on peut employer pour être cool, pour être soft, pour pas être dans la brutalité. Et ça, enfin, en gros, ça passe, hein. Parce qu'il faut vous dire quand même que, à travers les quelques dizaines d'années que je travaille sur ce sujet, j'ai vu baisser le nombre de clients qui réécrivent de manière drastique. C'est-à-dire que quand ils ont eu une réponse, même s'ils sont pas contents de la réponse parce qu'ils auraient aimé avoir une réponse positive, ils sont obligés d'admettre que c'était logique. Et donc, voilà, c'est logique, donc ils acceptent. Donc, vous voyez, la démarche, elle est là, c'est-à-dire que derrière, il faut que j'explique, quand je disais tout à l'heure qu'il fallait avoir un discours clair, c'est-à-dire qu'il faut que j'explique la règle d'une manière claire. Mais elle peut faire l'objet de phrases types. On peut faire des courriers, des paragraphes types pour les règles, hein, pour expliquer la règle. Le contrat, la clause de votre contrat précise que, et là, vous faites quelque chose qui est facile à comprendre. L'autre jour, je travaillais sur un courrier, et il y avait dans le courrier la réponse technique, elle disait la prescription bisannuelle. Moi, je suis restée devant. Ben, si vous voulez, je commençais à en connaître pas mal des cas. Ce mot-là ne me disait rien. Alors, je pense que tous les gens qui travaillent dans l'assurance doivent le connaître. Mais moi, je ne le connaissais pas. Mais si vous voulez, ce que j'ai simplement dit à la personne qui écrivait le courrier, pensez au client, est-ce qu'il sait ce que ça veut dire? Comment vous pouvez traduire prescription biannuelle? Et elle m'a trouvé une phrase très claire pour dire la même chose. Hein, c'est-à-dire que ça peut être, enfin, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit exactement, mais en tout cas, les mots, je les comprenais. Et c'est ça qu'il faut, c'est que le langage soit clair pour que le client le comprenne. Donc c'est encore un autre aspect sur lequel il faut travailler. C'est-à-dire oublier le jargon, oublier les phrases.
Le jeu d'ailleurs, et le jeu, et le nous, est-ce qu'il faut l'employer, le vous, dites-moi tout.
Bon, moi je peux pas dire qu'il faut parler, je vais dire un truc complètement surprenant. Il y a quelques années, quand j'ai débuté avec le jeu et le nous, il y a une de mes participantes à un stage qui me dit « Ah, oh, bah vous me dites le contraire de ce que j'ai appris à l'école. » À l'école, on m'a dit « On ne croise pas les genoux. » Vous voyez, l'histoire, c'est « Je ne parle pas au je dans une phrase pour passer au nous. » Moi, je préconise qu'on peut passer du je au nous. C'est-à-dire que, vous voyez, je peux écrire par exemple, mais tout bêtement. Hein, je réponds à votre courrier du temps par lequel vous exprimez votre mécontentement ou par lequel vous nous faites part de votre mécontentement concernant tel sujet. Je dis « nous faites pas ». Je dis pas « vous me faites pas ». Donc, c'est-à-dire que le « je », c'est s'approprier, le « je » est utilisé pour s'approprier l'échange personnel qu'on a avec une personne. Hein, c'est moi qui t'écris, qui vous écris, monsieur le client, c'est moi, je suis là, je m'engage, je suis responsable. Si je vous dis que je comprends, c'est moi qui comprends ce que vous ressentez. Par contre, quand je vous présente la règle qui s'applique, je vais vous dire, permettez-moi de vous présenter, de vous préciser la clause du contrat qui nous lie, et je vous explique la clause du contrat au nous. C'est-à-dire, c'est nous, entreprise X, qui avons cette clause, et cette clause que vous avez signée en signant votre contrat. C'est-à-dire qu'effectivement, j'alterne le « je » quand je m'implique, pour dire à quelqu'un, je comprends votre immense déception devant la réponse qui vous a été faite et les conséquences que ça a dans votre vie personnelle. C'est moi qui m'implique là-dedans. Si je dis nous comprenons, ça n'a plus du tout le même poids. Donc je suis obligée de dire je, parce que c'est moi qui parle avec une personne. Mais derrière, quand je vais lui présenter les excuses, par exemple, je vais lui présenter nos excuses. Je peux présenter mes excuses, mais je peux lui dire je vous présente nos excuses, étant donné que l'erreur commise, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est l'entreprise qui s'excuse. Donc, vous voyez, on alterne en permanence le je et le nous. C'est-à-dire que quand on présente la solution finale, c'est pas un bon mot, quand on présente le résultat et la décision finale, eh ben, on va présenter en disant, vous comprenez donc pourquoi nous ne pouvons répondre favorablement à votre demande. Vous voyez, on est dans le nous, là. C'est pas moi qui m'attribue le rôle de décider si je dis oui ou non. C'est l'entreprise. Donc voilà pourquoi c'est toujours difficile. C'est souvent difficile parce que on a beaucoup d'habitude. Hein. Je parle à un auditoire, aux gens qui peuvent m'écouter et qu'ils savent qu'on a l'habitude de considérer que on n'est pas décisionnaire, que c'est pas nous qui, individuellement. Et ça me fait passer à un autre sujet. C'est le rôle du management, en fait. Quand les personnes sortent de mon stage avec une vraie volonté, en ayant compris la posture qui va leur permettre et accepter en quelque sorte cette posture parce qu'ils ont compris leur rôle et que quelque part ça les valorise pas tellement de se mettre en colère face à un client. Donc ils ont envie d'être conciliants, ils en font un challenge de renverser le client. La seule chose qui est vraiment ennuyeuse, c'est que quand ils rentrent dans leur service, on les laisse pas faire ce qu'ils ont appris. Alors là, je le dis parce que je l'ai beaucoup vécu. C'est pas vrai partout et je me permettrai pas d'attaquer toutes les entreprises. Mais il y en a beaucoup. Quand ils rentrent dans le service, on leur dit, tu n'écris pas comme ça. Tu fais pas comme ça. On leur rature sur leur courrier. Ou on leur dit, tu dis pas ça au téléphone. Donc à partir du moment où on perd, non seulement il n'y a pas l'entraînement dont nous parlions au début, mais maintenant, en plus de manque d'entraînement, on perd la conviction de ce qu'on a appris. Parce qu'ils ne sont pas encore assez forts pour aller expliquer pourquoi c'est bien de le faire. Donc en fait, ils se conforment. Leur manager, c'est leur manager. On fait ce qu'il dit. Et ils se conforment et ils oublient. Et ils oublient d'appliquer les bonnes choses auxquelles ils croient d'ailleurs. Quelquefois, je les revois et ils me disent « c'était bien, je croyais bien à tout ce que vous nous aviez dit, mais je n'ai pas pu l'appliquer ».
Ouais, donc il faut aussi qu'il y ait une formation auprès des managers et que la direction soit comprise là-dessus. Alors un dernier point, c'était sur les outils aussi. Tu disais qu'il y a des outils qui peuvent aider à diagnostiquer. Tu nous as parlé de KPM, tu nous as parlé d'outils. Qu'est-ce que tu recommandes et quel avantage et quelle complémentarité par rapport à tes solutions et tes formations?
Alors c'est très très important comme question parce que moi j'en vois. On est dans un monde où on a tous les jours des nouveaux outils. Tous les jours, hein, tu parles de KPM, moi je trouve l'outil KPM remarquable parce qu'il permet, quand on travaille avec cet outil, de faire réfléchir les gens sur la perception, sur ce qu'on a, on donne aux clients, ce qu'on veut donner aux clients par rapport à une situation donnée et ce que le client attend. On fait réfléchir sur ce que le client attend. Et ça, c'est une réflexion qui ne peut que donner des bons résultats à terme. C'est-à-dire que quand d'un côté on les forme, de l'autre côté on leur montre que c'est pas ce qui compte pour eux qui est important, mais ce qui compte pour le client.
Ouais, la perception.
La perception. Et donc à ce moment-là, ils vont se dire, c'est pas à moi de décider ce qui est bon pour le client, c'est le client qui sait ce qui est bon pour lui.
Ouais, c'est comme communiquer les verbatim, les résultats d'enquête de satisfaction, mettre en place des satisfactions post-appel. Là, on a quelque chose de neutre qui vient des clients et c'est pas forcément le manager, c'est pas d'autres personnes, ouais, qui leur disent, c'est le client et c'est sa perception.
Ils aiment bien ça et ils s'en imprègnent, hein, quand ils ont des retours de clients. Je dirais que l'intérêt des outils comme le NPS qui est pratiqué depuis longtemps, l'intérêt c'est d'avoir les verbatims. Alors je ne sais pas si toutes les entreprises l'utilisent parce qu'elles s'occupent beaucoup des chiffres, mais en même temps, si on regarde les verbatims, c'est une mine d'or, une mine d'innovation,
Le pépin en pépite, comme on dit.
C'est des pépites. C'est des pépins. Ça peut être resté des pépins, ça peut devenir des pépites si on les traite bien. Et ça donne envie à l'individu qui a été noté de travailler par lui-même pour le faire. Et c'est ce côté, je m'implique personnellement, que je voudrais que les outils puissent développer. Alors c'est vrai que les outils comme le complaint model
de Daniel Ray, présenté par Daniel Ray.
De Daniel Ray, oui, c'est lui qui l'a élaboré et qui forme dans les entreprises pour l'acquérir. Je dirais que ce modèle qui mesure en gros le degré de fidélité selon le type de traitement de la réclamation qui a été fait, si le traitement de la réclamation, si on a répondu oui on voit le niveau de fidélisation. Si on a répondu non, on voit quand même qu'on est plus fidèle à une entreprise qui vous a dit non, si on l'a bien dit, le non. Et que quand on ne traite pas la réclamation, on perd énormément de clientèle. Donc en fait, il faut voir de plus près cet outil. Mais il est intéressant, à la condition que les collaborateurs soient impliqués dedans. Parce que si ça reste un outil qui est géré par une direction, mais que les collaborateurs n'ont qu'une présentation globale, mais ne sont pas impliqués et ne voient pas l'effet sur le client de ce qui a été fait, ben, je crois qu'ils ne passent pas à côté. Si vous voulez, pour moi, ce que dit Daniel Ray est vrai, c'est-à-dire qu'il faut que les collaborateurs, au jour le jour, aient la prise de conscience réelle de ce qui est à leur portée, de ce qu'ils doivent faire pour arriver à enchanter un client.
Ouais. Bah d'ailleurs, je rajouterais juste en conclusion, c'est le cas d'un opérateur dans l'énergie et qui en fait améliore la satisfaction client post-appel en mesure, tout simplement parce qu'à la fin, le conseiller, il prend un petit peu de temps pour faire un conseil d'économie d'énergie. Et c'est vrai que rien que le fait de passer du mode « bon, je réponds à votre réclamation, est-ce que vous avez notre appel, au revoir, merci » à « bah tiens, en fait, je peux peut-être vous aider pour vous donner un petit conseil », améliore grandement la satisfaction. C'est juste être orienté client, avoir de l'empathie, comme tu l'as dit précédemment.
Absolument. Et d'autant plus que ce genre de choses est très bon commercialement, parce que ça peut faire des développements, des rebonds commerciaux. C'est-à-dire que ça a l'avantage essentiellement d'être conseil, au lieu de celui qui vous dit à la fin de l'entretien « bon, bah, vous allez mettre une note, alors mettez-moi 9 ou 10, parce que si j'ai moins, ça compte pas. » Je préfère qu'ils me disent « vous avez un petit instant pour que je puisse vous donner un petit conseil par rapport à votre situation que je viens de voir avec vous. Eh » ben là, je lui dirais volontiers oui. Hein, donc, et j'aurais le sentiment que c'est fait pour moi. Tout le problème est là. Il ne faut pas faire les choses pour l'entreprise, il faut les faire pour le client, même si elles marchent pour l'entreprise.
Alors, si on veut en savoir plus sur toi, Michel, comment on fait ?
Comment on fait ? Oh, ben, on va sur LinkedIn, si on veut. Hein. Je suis Michel Boyer sur LinkedIn. Je ne suis pas très difficile à trouver. Et vous me trouverez dans la mouvance à marque pour laquelle je travaille, dans la mouvance dirigeants commerciaux de France pour laquelle je continue à être impliqué. Voilà, vous me trouverez sur LinkedIn.
Ben, merci Michel.
Merci à vous.